Bonjour chers auditeurs, nous retrouvons Jean de Dolin, l'administrateur de la cité de Carcassonne pour le Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous écouter il y a 15 jours où vous nous présentiez le Centre des Monuments Nationaux et votre action sur la cité de Carcassonne, eh bien sachez chers auditeurs que rien n'est perdu et que vous pouvez réécouter l'émission sur www.pays-carcassonnais.com. Donc là, nous allons partir sur les coups de cœur touristiques de Jean. Donc, on va commencer par le coup de cœur touristique dans le monde, hormis la France.
Pour moi, c'est Angkor, le site d'Angkor qui est situé au Cambodge, qui était un lieu dont, enfant, j'ai toujours rêvé, parce que nous recevions à la maison la revue de l'UNESCO, et revue extraordinaire, d'ailleurs je ne sais plus si elle existe encore. Et j'avais été fasciné par cette architecture qui était au milieu de la jungle. Mmh. Et donc, j'ai eu de cesse de me dire un jour, il faudra que j'y aille. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir partir au Cambodge il y a quelques années et d'avoir la chance de rester sur le site d'Angkor 8 jours entiers. 8 jours entiers. Ah oui. Avec la possibilité, parce que nous logions avec des amis vraiment à proximité du site, de partir dès l'ouverture le matin du site. Donc on partait avec les ouvriers qui partaient et qui allaient ouvrir ce site, enfin en quelque sorte, qui est au milieu de la jungle, et de rentrer le soir en ayant passé la journée entière. Et ce qui est assez fascinant, c'est que vous vous trouvez dans cette jungle luxuriante, hein, d'une part, avec une ville dont une partie a été restaurée. Il faut considérer que la civilisation angkorienne a régné grosso modo du 9e siècle jusqu'au 15e siècle.
Mmh, c'était très long.
Donc grosso modo 5 siècles de rayonnement qui occupaient non seulement le Cambodge actuel, la Thaïlande, le Laos et un certain nombre de pays environnants. Donc c'est-à-dire que cette civilisation qui était un empire a joué un rôle essentiel et a disparu. Du jour au lendemain, dirions-nous, mais enfin avec une décadence de plusieurs périodes, de quelques décennies, pour des raisons de surexploitation des terres, il y avait déjà des problèmes climatiques à l'époque, et puis de conditions qui n'ont pas été respectées par rapport à une terre qui est vivante. Et malgré la beauté des temples, malgré l'amplitude et l'ampleur qu'avait cette civilisation, elle était rattrapée par le temps, elle était rattrapée par la nature. Et vous vous promenez au milieu de ces temples dont les palétuviers, la jungle a pris ou prend possession à un moment donné de ces bâtiments construits par l'homme, voulus par l'homme, dans un orgueil souvent démesuré, mais une fascination extraordinaire. Et très souvent, ce qui est fascinant dans ces cultures d'Asie, c'est que vous avez ce temple posé sur un plan d'eau qu'on appelait l'océan primordial, l'origine du monde en quelque sorte. Le lieu qui est en fait toujours un lien entre le monde terrestre et le monde céleste, on retrouve dans toutes ces civilisations ce lien qui peut exister entre le monde souterrain et le monde céleste et nous, humains sur la Terre, toujours en équilibre ou en déséquilibre. Et cet océan primordial couvert de lotus, ouvert au matin avec une brune qui vient se lever au petit matin, etc. Et ces personnages, ces bonzes ou ces personnages que vous pouvez croiser, et toujours très élégants dans leurs vêtements et qui officient pour entretenir ces lieux et pour déambuler à l'intérieur. C'est totalement magique.
Mais ça y est, moi j'étais déjà partie. Hein. J'imaginais tout à fait. Écoutez, ça fait envie. C'était vraiment un vrai moment magique, on peut le dire. Alors, on va revenir en France. Oui. Votre coup de cœur, hormis le Languedoc-Roussillon.
Il y en a beaucoup, mais
je
suis originaire de Biarritz, je dirais un lieu où j'ai eu la chance de pouvoir d'ailleurs travailler est la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Ce n'est pas un lieu forcément très connu, c'est un lieu qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se trouve en Franche-Comté, pour dire où s'est située la Franche-Comté. Si vous voyez Genève et la Suisse, vous passez la frontière et vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle le département du Doubs, donc une ville qui s'appelle Besançon et un peu plus au sud de Besançon, à une demi-heure de voiture, vous avez un site construit par un des grands architectes de l'époque des Lumières qui s'appelait Claude-Nicolas Ledoux, qui avait construit les portes d'octroi à Paris, dont il reste quelques Exemples d'ailleurs, la barrière de Vincennes ou notamment la Villette, la rotonde de la Villette et autres. Et cet architecte, en fait, a sur commande de Louis XV, a réalisé une saline royale, donc, puisqu'elle avait le label, comme toutes les manufactures, d'être appelée royale, qui a été construite à la limite de la forêt de Chaux, qui était la deuxième plus grande forêt de France à l'époque. Et cet homme, qui était un homme éminemment d'une immense culture, a voulu imaginer le début d'une ellipse. Il n'en a construit que la moitié, qui se voulait être un principe de cité idéale. Cité idéale dans le sens où il y avait le lieu de travail, le lieu de production et le lieu d'habitat de ce monde qui deviendra après au XIXe siècle et qui sera récupéré par des gens comme Fournier ou autres dans ce qu'on a appelé par la suite le phalanstère, mais qui n'a rien à voir avec le phalanstère parce que on est encore dans la conception du pouvoir royal, donc qui est représenté au sein de ce bâtiment, de cet ensemble de bâtiments par ce qu'on appelle la maison du directeur, qui est un temple néoclassique avec des colonnes à bossage, un peu dorique, dirions-nous, et puis l'ensemble des bâtiments qui s'étalent tout autour en arc de cercle, et une entrée par laquelle tout individu est obligé de passer, qui est une grotte, une espèce de grotte à la manière de Platon, d'accord, monde souterrain, qui amène dans l'axe à aller vers la maison du directeur, donc l'élévation, qui se voulait être un lieu de pouvoir temporel et un peu de pouvoir spirituel, un peu l'élévation comme on avait à cette fin du XVIIIe siècle de l'être suprême dans sa conception de grand architecte de l'univers. Et j'ai eu l'occasion de diriger ce lieu pendant 7 ans et d'avoir pu organiser dans cet espace des grandes expositions sur la ville, également sur les compagnons, également sur le design et un certain nombre de lieux. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il se trouve, on dirait, in the middle of nowhere, donc en pleine campagne, complètement paumé. Mais en même temps, quand vous êtes dans le 18e siècle, dans le 18e siècle de la grande époque.
D'accord. Bien, donc un lieu à découvrir, chers Absolument. Auditeurs. Et votre coup de cœur touristique en Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude?
Alors, je disais dans la première émission il y a 15 jours que j'ai la chance de diriger un deuxième site qui s'appelle la forteresse de Sals. Oui. Donc, Sals, à tout près de Perpignan, je vous conseille vivement d'y aller de toute urgence, est une forteresse qui a été conçue par les rois d'Espagne de l'époque, donc Isabelle la Catholique et Ferdinand d'Aragon, et qui devait servir de place forte pour défendre le Roussillon contre l'envahisseur éventuel qui était le Français, donc puisque le Roussillon était éminemment espagnol. Et ce qui est fascinant dans cette forteresse qui a été construite en 7 ans, donc elle occupe à peu près 3,5 hectares de terrain, avec des murs d'une épaisseur à peu près de 12 mètres à la base jusqu'à 5-6 mètres en haut, est une forteresse qui a mangé le budget, à peu près le quart du budget du royaume d'Aragon pendant 7 ans, rien que par son coût et par, j'allais dire, l'amplitude qu'en voulait le roi lui-même. Elle a servi de verrou, elle a quand même été prise par trahison, c'est souvent ce qui se passe dans ce cas-là. Et surtout quand Vauban est venu dans la région, il s'est précipité pour voir ce lieu et pour admirer le travail de cet architecte qui s'appelait Ramiro López, qui était un des grands architectes qui a construit beaucoup d'ailleurs en Espagne de l'autre côté de la frontière. Et ce lieu est totalement magique parce que, je ne sais pas si vous avez lu Le désert des Tartares de Buzzati, mais qui est un ouvrage que je conseille aussi, vous avez l'impression aussi, même s'il y a un petit village qui est à côté de 3000 habitants, Sals, d'être une fois à l'intérieur en attente de l'ennemi. L'ennemi improbable, arrivera-t-il, n'arrivera-t-il pas? D'être en plus dans un lieu qui est enfoncé dans la plaine. C'est-à-dire que le système, je ne rentrerai pas dans le détail technique justement de construction, mais ce lieu a été semi-enterré, permettant de mieux défendre l'épaisseur de la muraille à l'égard des canons, et de mieux, incruster ce petit bijou d'architecture à l'intérieur du paysage. Vous avez en plus les temps de Sals, qu'on appelle maintenant les temps de Leucate et de Barcarès, qui est à vos pieds. Et en même temps, de l'autre côté, si vous tournez un peu la tête, le Canigou, qui est en plus en ce moment enneigé, donc qui est un lieu absolument magique.
Et puis, vous avez la chance d'avoir des guides passionnés. Moi, j'ai fait la visite et c'est vrai qu'il faut encourager les gens à aller visiter. Et votre coup de cœur touristique dans l'Aude, alors, hormis le pays carcassonnais?
Alors, j'ai eu l'occasion, comme je disais aussi, il y a peu de temps que je suis arrivé, mais j'ai voulu voir l'abbaye de Fontfroide. J'y suis allé d'ailleurs un jour, il faisait très froid, et un dimanche. Et ce lieu m'a absolument fasciné, parce que j'en ai évidemment entendu parler, j'en avais vu des ouvrages. C'est en plus qu'Odilon Redon y a passé un certain temps, qu'il était ami du propriétaire de l'époque. Je n'ai pas pu, malheureusement, cette fois-ci, visiter la fameuse bibliothèque qu'il a décorée. Mais ce qui m'a fasciné dans Fontfroide, c'est d'avoir cette abbaye qui a eu un rayonnement extrêmement important, qui était aussi une marque de l'Église à l'encontre du territoire cathare, et une façon de marquer, j'allais dire, ce pouvoir centralisé à un moment donné. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est nichée au creux d'une vallée, dans un endroit qui est à la limite difficile, je ne dirais pas difficile d'accès, mais qu'il faut aller chercher quelque part, et qu'elle a eu ce rayonnement si important. La deuxième chose qui est assez fascinante, c'est qu'elle a une âpreté, une austérité, qui vous oblige à une grande humilité quand on rentre à l'intérieur, comme beaucoup de ces abbayes. C'est-à-dire que ce sont des lieux d'élévation, mais d'élévation de l'âme et d'une grande humilité humaine. Et ça, c'est une chose qui marque énormément quand vous rentrez à Fontfroide. En plus, l'équipe qui vous accueille est une équipe passionnée. Je pense que dans nos métiers, on se retrouve à chaque fois avec
souvent.
Des gens...
Oui,
voilà.
Oui.
C'est important, c'est éminemment sympathique parce que du coup le dialogue s'établit facilement. Et le jour où j'ai visité, nous étions un petit groupe avec des touristes de tous bords et c'était assez amusant parce que l'échange se faisait très spontanément, la curiosité des gens l'emportant sur leur timidité et les guides se prêtant volontiers à une visite. J'étais vraiment fasciné. J'espère y retourner très vite. C'est pas très loin.
Non.
Alors et
là,
puis j'espère
vraiment...
aussi peut-être établir des collaborations, peut-être au regard notamment du festival qu'ils organisent l'été, qui est un festival de grande qualité.
Absolument.
Et pour lequel je conseille aussi d'aller entendre et voir, puisque Jordi Savall notamment est un des piliers.
De ce festival. Et puis également une très belle roseraie, une des plus belles roseraies de France, donc ça fait encore en plus un atout pour l'abbaye de Fontfroide. Et alors pour finir, votre coup de cœur en pays carcassonnais?
Alors en pays carcassonnais, comme je vous disais, j'ai beaucoup de travail, donc j'ai pas eu l'occasion de beaucoup sortir les week-ends. J'ai été là quelques week-ends, mais souvent je suis absent. Et c'est la Bastide à Carcassonne, qui est un lieu, à mon avis, totalement méconnu, qui mérite surtout d'être mis en valeur, parce que j'ai eu une impression en même temps d'abandon et de la part des gens que j'ai pu interroger, qui habitent, des commerçants qui sont installés, l'envie qu'elle rayonne davantage, l'envie qu'elle retrouve, peut-être pas une splendeur, mais quand même son rang par rapport à ce qu'elle a été. Il ne faut pas oublier que c'est une bastide qui a été conçue à l'époque de Saint-Louis, donc on est déjà au XIIIe siècle, qu'on se retrouve donc dans une ville imaginée pour permettre à une population de s'implanter et qui a, au cours des siècles, vu évoluer ses hôtels particuliers, ses cours. Moi, j'ai eu l'occasion de pousser des portes quand elles peuvent s'ouvrir. Et je conseille peut-être d'ouvrir au maximum les portes, de forcer peut-être, si on peut le faire.
Et puis, il y a aussi des visites organisées par l'Office de tourisme dans la Bastide. Donc,
absolument,
n'hésitez pas à les appeler, chers auditeurs, et de partir à la découverte de cette Bastide.
Exactement. Et notamment, il y a une église qui m'a assez fasciné, c'est Saint-Vincent, parce qu'elle a ce clocher qui est en fait je ne sais pas si on peut appeler ça un beffroi, je ne sais pas si on peut appeler ça un donjon, mais moi-même, qui suis toutes mes journées donc à la cité, chaque fois que j'ai l'occasion d'être sur le rempart et de regarder la Bastide, qu'est-ce que l'on voit? C'est Saint-Vincent.
Tout à fait.
Et Saint-Vincent qui domine d'ailleurs la cathédrale. Mmh. Et ça me rappelait d'ailleurs un jour en Amérique latine, c'était à Cusco, au Pérou, où finalement l'église des Jésuites dominait la cathédrale. C'est toujours des clins d'œil amusants. Alors, quelquefois, des mouvements ou des... des religieux qui, quelquefois, font un clin d'œil au Vatican d'une manière ou d'une autre en disant « nous existons ou nous sommes indépendants des autres ».
Bien, merci Jean pour ces belles découvertes. Bien, pour les auditeurs, sachez qu'en parlant de l'église Saint-Vincent, il y aura une visite du clocher organisée par les Amis de la Ville et de la Cité, qui est une association, lors du week-end de Pâques. Donc n'hésitez pas à venir faire la visite. Et bien, avec tous ces paysages et monuments en tête, je suis sûre, chers auditeurs, que vous passerez une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain.